France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Monica Bellucci. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Gaumont nous parlera d'un film sorti aujourd'hui en salle, Io, de Jerzy Skolimowski. 19h45, Affaires en cours, alors que les revendications sociales se font entendre dans la rue. Laurence Fontaine fait avec Marie Sorbier un point sur ce que vivre pauvre veut dire, notamment via les écrivains du siècle des Lumières. 19h50, affaire à suivre, je serai en compagnie de la funambule Tatiana Mozio-Bonganga. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Marie-Claire Oumabadi et Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Monica Bellucci.
Bonsoir.
Vous serez cette fin de semaine au Festival Lumière à Lyon pour présenter le documentaire The Girl in the Fountain d'Anton Giulio Panizzi. Vous serez sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris les 14 et 15 novembre pour ce spectacle Maria Callas, Lettres et Mémoires, dont nous parlerons de ces deux actualités, mais avec nos invités. Chaque soir, on essaye non seulement de savoir comment elles, ils pratiquent leur art de façon très concrète, mais aussi pour commencer de savoir ce qui les a conduits à choisir cette forme d'art, se pose souvent la question de ce qui vient de l'enfance. Alors vous, concernant Monica Bellucci, vous avez expliqué, étant fille unique, que vos parents aimaient beaucoup le cinéma et qu'ils vous emmenaient, que vous avez vu beaucoup de films avec eux, que vous en parliez avec eux, des films qui n'étaient pas forcément toujours de votre âge. Parmi ceux-ci, vous citez notamment La Chambre de l'évêque, de Dino Reed. Ce sont des souvenirs anciens de petite fille ?
Bah oui. Dans le sens que moi j'adorais voir des films. Quand j'étais jeune, je regardais aussi, des fois je regardais 3 films par jour, avec des copains ou avec seul. Et après j'étudiais bien sûr, comme tous les adolescents. Mais mes parents, quand ils allaient au cinéma, ils me racontaient leurs films, c'est vrai. Ils revenaient et moi j'ai rêvé à travers eux.
Les rêves aussi qui passaient par ces images de cinéma qui prenaient de la place dans les magazines, mais aussi les livres, il y avait besoin d'évasion.
Livres des photos, oui, peut-être parce que je venais de la province et ça m'aidait tout ça à sortir. C'est vrai que la province crée une ambiance qui est aussi protecteur, mais ça donne aussi envie de partir quand on est plus âgé, même si moi je viens d'Ombrique, c'est une région magnifique et j'y retourne toujours avec beaucoup de plaisir, mais ma nature c'était voilà, de voyager, de découvrir, et mon métier m'a permis tout ça aussi.
Mais fille unique aussi, même s'il y avait des cousins, des cousines, ça, c'est quelque chose qui, vous le dites, vous a donné le goût de la solitude. C'était une solitude donc qui n'était pas subie mais qui était plutôt acceptée par vous.
Peut-être parce que c'était naturel pour moi, du moment que j'étais fille unique. Et après, cette forme de solitude, en quelque sorte, c'est quelque chose qui m'a servi beaucoup pour mon travail. Parce que comme on dit toujours, quand on regarde un film ou pense à une comédienne, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Tout le travail, tout ce qui fait aussi des solitudes, des choix.
On va essayer d'évoquer cela, justement. Mais vous l'avez évoqué, il y a cette campagne en Ombrie, où vous avez grandi, vous dites qu'elle est sombre, qu'elle est dramatique, et qu'il y a peut-être quelque chose de la tristesse de cette région qui est peut-être restée un peu en vous.
Disons que, non, l'Ombrie, ça fait penser à l'ombre,
oui.
Comme on dit. Et c'est vrai que c'est une région où il y a des montagnes autour, et il pleut beaucoup. Et des fois, à 4h de l'après-midi, je retournais de l'école, et c'était déjà nuit. Et je pense que cette ambiance, en quelque sorte, est pénétrée en moi. Et après, même s'il y a le soleil, cette partie d'ombre reste en moi.
J'appuie un peu sur Avance rapide, Monica Bellucci, lycée classique, où on apprend le latin et le grec. Pas facile. Début du mannequinat dès 15 ans, des défilés à Florence, à Milan, à Paris. Après le baccalauréat, vous inscrivez en droit à l'université de Perugia, Pérouse en français. que vous quittez un an plus tard pour aller cette fois à Milan. Il y a Olivier Toscani qui vous remarque, vous intégrez l'agence Elite. Et puis 91, j'évoquais Dino Rizzi tout à l'heure, c'est votre premier téléfilm, en l'occurrence, avec lui, Vitacco e Figli. Et puis il y aura un autre film, La Rifa de Francesco Laudadio. L'année suivante, Monica Bellucci, on vous voit même dans le Dracula de Francis Ford Coppola, en femme vampire. Alors, ce qui m'autorise cette transition facile sur votre regard sur le métier de comédienne, comédien, vous dites souvent que vous êtes des vampires.
Nous, ouais. Ben parce que tout ce que c'est l'humain est source d'inspiration. Du coup, c'est tellement intéressant, non, de regarder les gens. Ça nous touche, ça nous inspire. Et disons que cette manière de voir et de concevoir mon métier, ça m'a aussi porté à choisir des metteurs en scène très différents entre eux, et aussi de m'approcher pas seulement à des sources de cinéma différentes, mais aussi de me rapprocher des cultures qui n'avaient rien à faire les unes avec les autres. Du coup, des metteurs en scène comme Kusturica, par exemple, ou Tornatore, Gaspar Noé, Wachowski, voilà, on parle de mondes qui...
extrêmement différents.
Voilà.
Mais je repensais aussi au fait que vous êtes arrivé quand même très jeune dans un monde d'adultes, avec le mannequinat. Est-ce que vous étiez plutôt timide, plutôt observé, justement? Est-ce que là aussi, vous vous êtes déjà nourri de ce qui allait vous servir plus tard dans le jeu?
Timide, mais aussi très curieuse. Et cette curiosité, c'était le moteur de tout pour moi. Apprendre les langues, connaître des gens différents. Voilà. Et du coup, cette curiosité m'a ouvert beaucoup de possibilités.
Et puis, vous le dites, en effet, un large spectre dans le choix des films. Avance rapide encore à votre arrivée en France en 1995, ce film L'Appartement de Jérémy Mouni qui vous vaut l'année suivante donc une nomination Meilleur Espoir Féminin. Alors depuis, vous n'avez jamais cessé de tourner, beaucoup en France, beaucoup en Italie aussi, mais beaucoup à l'international, pour le dire vite. Les deux Matrix que vous évoquiez, un film avec Spike Lee, un film avec Terry Gilliam, vous avez cité Emir Kusturica, et toujours une très large palette, parce qu'on vous voit aussi bien dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, que dans Un été brûlant, de film Garel, que dans 07 Spectre, de Sam Mendes. Mais qu'est-ce qui fait que vous, Monica Bellucci, vous acceptez un rôle? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est la cinéaste?
C'est tout ça ensemble. Dans le sens, l'envie de travailler avec un réalisateur, de faire partie d'un projet. Et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je regarde pas combien de temps je reste à l'écran. Du coup, je peux me retrouver à faire des rôles qui durent longtemps ou même des petits rôles. Tout ça, c'est créatif pour moi.
Et ça, vous le sentez dans la rencontre quand même préalable avec le cinéaste ou la cinéaste?
Oui, parce que je sais qu'à travers ça, je peux apprendre quelque chose et c'est tellement important de rester vivante et d'avoir que la passion, de faire manière que la passion est là. Et de rentrer dans des univers qui sont si différents entre eux, justement parler des langues différentes. Même ça, c'est très, très intéressant, c'est nourrissant.
Alors si à vos débuts, vous disiez que vous aviez un peu des tics de modèle, que vous vouliez être belle à l'écran, alors vous n'avez pas hésité par la suite à vous plier au rôle, quel qu'il soit, on va l'aborder. Mais concernant votre métier de comédienne, je voulais vous faire écouter une première archive de Maria Callas, puisqu'on va parler d'elle aussi. On parlera du spectacle un peu plus tard. Ici, la cantatrice est interviewée par Micheline Banzé, c'est sur France Musique en février 65.
Et alors vous-même, quand vous abordez un rôle, est-ce que vous avez besoin d'une certaine affinité avec le personnage que vous allez jouer?
Non, ça c'est un peu difficile. Vous savez, avec le personnage, on doit pénétrer, on cherche de pénétrer dans ce que c'était. Et sur ça, on dit, si j'étais celle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, on cherche de se changer, beaucoup. Mais il faut se changer en étant elle-même. C'est-à-dire, tu dois être toi-même avec ces idées. On change, mais c'est à toi. C'est pas fabrication. Il faut que tu sens exactement ce que l'autre aura fait.
Ce n'est pas une copie. En
ah non, non, non.
Ce n'est
mais
pas
copie
un
de quoi?
Et de quelque chose qu'on peut imaginer.
Mais il y a une copie de quelque chose.
Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire, justement, en ce moment-là, d'essayer de savoir quel est le contexte historique, quelle
oh,
est l'époque et toutes ces choses-là?
Oui, mais pas tout à fait. Parce que, écoutez, moi, j'ai fait Anne Boleyn.
Oui.
Et je vous assure que ce que l'histoire dit et ce que l'opéra dit est bien autre chose.
Bien différent. Donc
et
c'est
alors,
plutôt...
je n'ai pas voulu lire. J'ai commencé à lire. J'ai vu que ce n'était pas tout à fait... Oh, au contraire, c'était tout à fait le contraire. Alors, j'ai arrêté, c'est tout. On ne doit plus chercher de regarder ces choses-là.
Donc, on doit apporter... Ah,
on doit
c'est
être
plutôt une
très
approche
élastique.
Psychologique, en somme, d'après le texte et le livre
oui.
à lui-même.
Oui, et puis cet instinct, ma chère.
C'est l'instinct,
c'est l'instinct, le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après, tu travailles les détails. Mais c'est l'instinct tout de suite.
Pour vous, Monica Bellucci, c'est l'instinct tout de suite aussi?
C'est l'instinct. L'instinct, c'est la première chose. C'est les ventres qui parlent. Et après, tout le reste. Après, il y a la construction du personnage, mais la première chose, c'est l'instinct. Et Maria Callas était pas seulement une grande cantatrice, mais c'était une grande actrice, une grande interprète dans tous ses opéras, bien sûr. Mais aussi, elle avait fait un film, Medea, les seuls films qu'elle a fait, où elle était magnifique.
Avec Pasolini.
Oui.
Vous reconnaissez dans ce qu'elle dit, il faut rester soi-même, avec ses idées, pour être un personnage?
Mais si, je pense qu'elle a absolument raison, parce qu'il faut les comprendre, les personnages. Et savoir pourquoi il agit comme ça, quoi qu'il soit, le personnage.
Il faut toujours aller chercher en soi.
En soi, quelque chose... Mais après, les processus créatifs d'une comédienne, c'est quelque chose de très secret. Dans le sens qu'il y a une partie commune, comme le personnage s'habille, comme il bouge. Mais après, il y a quelque chose qui est complètement... Comme elle a dit, justement, Maria Callas, dans l'instant. Oui. Et quelque chose aussi qui est inconscient, inexplicable.
Il y a eu des...
Et que, comme on dit toujours, devant le clap, il y a ce moment incertain où tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire. Et c'est là la magie.
Il y a des rôles, des films qui vous ont appris des choses sur vous-même?
Mais je continue à apprendre. Parce que sinon, il faut que j'arrête de travailler. C'est cette envie d'apprendre, d'avoir toujours peur, en quelque sorte, que même si tu as de l'expérience, après beaucoup d'années que tu fais ce métier, mais il y a toujours une sorte de... Il y a les côtés incertains, mais qui fait aussi que tu restes fraîche.
Mais est-ce qu'on se connaît mieux soi-même en faisant des rôles? Est-ce qu'on apprend des choses sur soi?
On apprend un peu. Mais je crois que...
Il faut que ça reste un peu mystérieux aussi.
Voilà, et que on est toujours dans un métier qu'on ne connaît pas à 100%. Parce que sinon, on n'a pas envie de continuer, non? Quand on connaît quelque chose, après, ça devient de l'habitude. Mais dans ce métier, l'habitude n'est jamais là.
Ouais, sinon ce serait dangereux. À propos de films, vous allez donc présenter au Festival de Lumière à Lyon un film très particulier, réalisé par Anton Giulio Panizzi, son titre The Girl in the Fountain, la fille dans la fontaine, qui renvoie à l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma mondial, c'est Anita Ekberg dans La Fontaine de Trevi à Rome, dans La Dolce Vita de Federico Fellini. J'avoue que tout cinéphile que je sois, je n'avais pas idée de l'importance de la carrière à Hollywood d'Anita Ekberg avant de voir ce film. Alors, importance... relative, mais quand même, il s'est passé des choses pour elle là-bas. C'est surtout un très beau portrait de femme libre qu'on voit avec ce film. Qu'est-ce que vous saviez, vous, d'Anita Ekberg, avant de faire ce film?
Mais bien sûr, j'avais vu les films magnifiques de Fellini, La Dolce Vita, et j'avais dans ma tête une idée d'elle, de cette image bouleversante, magnifique, sensuelle. Mais après, à travers ce film, j'ai eu la possibilité de la connaître mieux. Et ce film, c'est un peu un film documentaire, mais plutôt un document sur une époque. Et quand Anton Giulio Panizzi, le réalisateur, m'a demandé si je voulais rentrer dans ce projet, au début j'étais vraiment surprise, parce que Anita Ekberg, blonde, yeux bleus, 1m82, voilà, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est trop pour moi. Mais après, j'ai trouvé que peut-être il y avait une chose que on pouvait quelque chose où, justement, ce que dit Maria Callas, quelque chose que je pouvais comprendre de cette femme. Cette femme avait une image qui était tellement forte et que des fois cette image arrivait avant elle. Et j'ai un peu eu ça au début de ma carrière, dans le sens que je venais de la mode et tout, et cette image était vraiment des fois un peu quelque chose qui était un poids pour moi. Et à partir de là, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et du coup, j'ai vu ses films, j'ai écouté ses interviews, et on voit ça dans les films, des petits moments comme ça, et les publics, à travers mes yeux, peut du coup comprendre qui était cette femme et la connaître mieux comme comme artiste et comme femme. Voilà.
Et vous parlez de ce poids, Monica Bellucci, que vous, vous avez connu aussi. Est-ce qu'on s'en débarrasse ou est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on s'habitue?
On vit avec. On vit avec aussi parce que dans la vie, on, comme vous dites, on a la possibilité de se connaître aussi à travers les métiers qu'on fait, à travers la vie, l'espérance de la vie tout simplement. Et on travaille sur soi, on se transforme et c'est une découverte pour nous-mêmes avant tout. C'est que comment on vit la vie, comment ses rapports par rapport à l'existence et par rapport aux choix qu'on fait aussi. Et même d'avoir la possibilité, je remercie énormément que justement ce métier me permet de rencontrer des femmes exceptionnelles comme ça, comme Anita Ekberg ou Maria Callas.
Concernant Anita Ekberg, toujours, et ce film, c'est un film qui est aussi comme un jeu de miroir de faux-semblants avec vous, parce qu'il joue vraiment sur la frontière entre documentaire et fiction. On y voit Monica Bellucci jouer le rôle de Monica Bellucci. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, en fait, le réalisateur?
En effet, dans ce film, je fais une actrice, qui dans ce cas, c'est moi, qui joue une autre actrice. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient comme une masterclass. Dans le sens qu'on voit une comédienne, le travail qu'il fait pour s'approprier d'un rôle. Du coup, on me voit discuter avec le réalisateur, on me voit travailler avec ma coach pour devenir ce personnage, et surtout la transformation si physique pour devenir comme elle était. Et après, il y a un moment qui est vraiment magique dans le film, et c'est peut-être la clé particulière à travers laquelle on comprend pourquoi elle veut jouer ses personnages. Et ça, on les verra dans le film, on ne va pas l'expliquer.
Ah non, on ne va pas le dire.
Mais c'est deux mondes à comparaison. C'est les star system de l'époque, les star system d'aujourd'hui, les femmes de l'époque, les femmes d'aujourd'hui.
Elle était libre bien avant l'heure, Anita Ekberg, et c'est vraiment un film très, très impressionnant pour cela, parce que vraiment, ça la met à une place qu'elle n'avait pas. Donc c'est vraiment important que ce film soit vu par le plus grand nombre. On va découvrir à présent votre choix musical, alors qu'il ne s'est pas porté sur Maria Callas, dont on va parler juste après, mais sur Nessie Gomes. Vous parlez portugais aussi, en plus de toutes les langues, ou pas?
Je comprends un peu, mais je ne parle pas, non.
Vous l'avez découverte quand, cette artiste-là?
À travers des amis.
On la découvre, nous aussi. Dame fuerza, amor.
precious spirit, dust my knowing, confused senses, ancient voices, spill the secret.
Ça fait du bien. Merci Monica Bellucci pour cette découverte,
déjà.
Merci. Et qui nous amène, sans transition aucune, à parler de ce spectacle. Maria Callas, Lettres et Mémoires, dont la création remonte à 2019. Tom Wolfe, on en avait parlé d'ailleurs sur cette antenne, avait réalisé en 2017 un documentaire, Maria by Callas, qui se nourrissait d'entretiens avec des proches, mais aussi de la correspondance privée de Maria Callas. 400 lettres à peu près. L'année suivante, d'ailleurs, il a publié, édité un livre, Lettres et Mémoires inachevées, chez Albin Michel. Alors, on se souvient que vous jouiez une cantatrice dans Mozart in the Jungle, la série formidable, vraiment que je recommande encore une fois, parce qu'on en a parlé aussi sur cette antenne. Mais à quel moment, concernant Maria Callas, une adaptation théâtrale a-t-elle été imaginée? Quel a été votre rôle dans cette aventure, vous, Monica Bellucci?
Mais vraiment... un rôle d'une comédienne, tout simplement, avec un réalisateur, Tom Wolfe, qui m'a proposé ce projet. Et moi, j'avais jamais fait du théâtre. Mmh. Et quand j'ai lu quelques lettres, quelques mémoires, là, j'ai pas pu résister, malgré j'avais, comme je dis toujours, peur, et j'ai encore peur. Voilà, parce que je voudrais tellement enlever ça et dire, alors maintenant, je monte sur scène et...
Mais vous savez, même ceux qui font ça depuis 30 ou 40 ans ont peur. C'est plutôt bon signe.
C'est comme ça. Mais c'est très enrichissant pour moi de rentrer dans la peau de cette grande dame merveilleuse et qui a inspiré et qui inspire tellement encore aujourd'hui. Parce que c'est une femme qui a vraiment aussi lutté pour sa liberté dans un moment qui était encore difficile pour les femmes. C'est une femme qui a eu le courage de vivre ses passions, son amour, avec beaucoup de risques, parce que c'est une femme qui a vraiment donné toute sa jeunesse et son enfance pour son travail. Et quand elle a rencontré l'amour, elle a quitté tout ce qu'elle avait fait jusqu'à ce moment-là pour l'amour. Du coup, une femme vraie, qui n'a pas... Il y a quelque chose qui est tellement vrai au point qu'elle est morte, c'est ça. Parce que son cœur n'avait pas de protection.
Il y a quelques échos entre Anita Ekberg et Maria Callas sur cette liberté, sur cette vie qui...
Il y a une époque qui les rend...
Mais elles sont rares dans cette époque.
Si, parce que très peu de femmes pouvaient se permettre ça. Mais c'était des femmes justement qui travaillaient, qui étaient indépendantes. Et c'est aussi ça qui fait la différence par rapport aux femmes de l'époque.
À Athènes, l'année dernière, vous avez donc créé une version avec orchestre. C'était pas le cas au début. Là, c'est l'orchestre L'Amoureux, sous la direction de Philippe Forget, qui vous accompagnera sur scène à Paris. Comment est-ce que vous avez adapté et accueilli l'orchestre? Quelle est sa place dans le spectacle aujourd'hui?
Mais c'est... Quand il y a l'orchestre, ça devient magique. Et moi, je deviens la cerise sur les gâteaux. Parce que avec l'orchestre, tout prend une dimension tellement belle. Et moi, je suis heureuse parce que je ne suis pas seule.
Là, vous êtes soutenue.
Oui,
aussi.
C'est beau. Et entre ce moment d'interprétation des lettres et mémoires, d'un coup, voilà, il y a cette musique de temps en temps qui est tellement enrichissante et belle et qui fait voler les âmes.
Un autre extrait de l'interview de Maria Callas en 1965.
Je trouve que les femmes ont une grande, grande, comment est-ce qu'on dit, force, qu'on l'utilise pas trop, la fémininité. Moi, j'ai travaillé toujours comme un homme, alors, hélas.
J'allais vous dire la féminité. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de place pour la féminité dans votre vie?
Il fallait pas, mais je l'ai. Et heureusement aussi, parce que comme ça, je peux me permettre de faire des personnages comme je l'ai fait. Je suis très sensible. Et ça, c'est le point vulnérable de moi. Mais nous, femmes, si nous savons être femmes, tout simplement, nous aurons le monde à nos pieds. Et nous voulons nous habiller comme des hommes, nous voulons commander comme des hommes, quand on peut commander comme des femmes et obtenir beaucoup plus.
Parole forte de Maria Callas. Hein.
Magnifique. Mais quand elle parlait du travail, elle était tellement sûre d'elle que personne ne pouvait imaginer cet esprit doux et sensible qu'elle avait, que sûrement ça c'était aussi son talent, cette capacité de percevoir, non, cette sensibilité. Et justement, les spectacles font ça, amène Maria.
Oui, parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous comprenez, Monica Bellucci, quand elle dit qu'il y a Maria et qu'il y a la Callas.
Voilà, et Callas, c'était sa protection, pour protéger Maria.
Qu'est-ce qui se passe pour vous avant de faire ce pas qui vous fait passer des coulisses à la scène? Dans quel état vous êtes? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a une façon de se préparer?
Pour beaucoup de fois, avant de monter sur scène, pour me donner la force, j'écoutais Carmen de Maria Callas. Les moments où elle chantait à Hambourg, ces moments où elle avait une force tellement, j'avais l'impression que ces moments de musique me donnaient la force d'arriver sur scène.
Un air particulier?
Oui, Carmen.
Non mais, ça. Dans Carmen?
Non, je ne peux pas chanter là.
Non mais, un air particulier de
non,
Carmen?
Ben, j'adore les débuts parce qu'après ça monte. Et ça commence calme après. Et je sentais cette force qu'elle avait. Et en plus, voilà, c'était un moment particulier de sa vie, quand elle a chanté à Hambourg, où d'un coup, elle a été, je crois, en plein de sa force féminine, de sa sensualité, de la découverte de l'amour, je pense. Et ça s'est senti. Et du coup, ça m'a inspiré beaucoup pour être sur scène.
Alors, à propos de scène, une autre voix que vous aimez, Monica Bellucci, celle d'Anna Magnani. On est encore en 65, bon, c'est le hasard, mais elle fait à ce moment-là son retour au théâtre, après 10 ans d'absence sur les planches. Elle joue à Paris, sous la direction de Franco Zeffirelli. Écoutez-la.
Est-ce qu'on peut vous demander, madame, quelle est la place que le théâtre occupe dans votre activité, en fait, par rapport au cinéma, enfin, car vous, c'est un retour, cette représentation au théâtre, depuis combien de temps?
Depuis 10 ans. Maintenant, je crois que c'est un retour. Mais au début, c'est... Enfin, j'ai accepté, il m'a convaincue, parce que j'avais une grande peur, après 10 ans. Et au début, c'était quelque chose comme pour m'éprouver, comme on dit, pour voir si j'étais encore capable d'être là sur le plateau. Moi, j'ai fait un autre métier jusqu'à hier. Vous voyez, par exemple, en faisant un film, je parle comme je parle maintenant. Et là, hier soir, j'avais un trac, alors. Et à la fin du premier acte, ma voix... Je ne savais pas même la portée, voyez-vous. Mais je dois dire, c'est pas question d'être ni modeste, ni trop... Après cette preuve, je crois que chaque année, je ferai du théâtre.
Oh, mon Dieu.
Ça vous émeut, mais je l'aime. Anna Magnani,
c'est drôle parce que j'ai regardé par hasard une interview d'elle, ça fait quelques jours, où elle disait... Mais je sais même pas si je suis une actrice. Une actrice doit rester toujours pareille, reste toujours pareille. Alors que moi, je change tous les soirs. Chaque soir, je suis pas la même. Non, mais elle était tellement incroyable. Quelle actrice merveilleuse, mon Dieu.
Elle fait partie de vos icônes.
Ben oui. Anna Magnani est une tragédienne naturelle. Une force et une vie difficile. Une vie très difficile, mais quelqu'un. Mais c'était des femmes, quand toutes ces femmes-là dont on parle, mon Dieu, c'est des femmes qui pour nous c'est des points de référence. C'est grâce à ces femmes-là qu'on est les femmes d'aujourd'hui. Parce que toutes ces femmes-là, elles vivaient dans une époque où les femmes étaient encore dans les mondes domestiques, qui sortaient pas de leur maison, de leur cuisine. Et ces femmes-là étaient des battantes. Et c'est pour ça que c'est des femmes qui nous ont vraiment aidées à devenir ce qu'on est aujourd'hui.
À propos du théâtre, ce qu'elle dit là, hein, de ce tract, et en même temps de l'envie de toujours en faire et en faire, est-ce que ce spectacle-là, Monica Bellucci, vous donne envie d'en faire d'autres ensuite?
Là, c'est le long silence.
Il y a du plaisir quand même à être sur scène.
Je sais pas, peut-être que je ferai comme... comme Callas. Elle a fait qu'un film. Et moi, je ferai qu'une expérience théâtrale, mais qui a eu une tournée internationale. Je ne sais pas. Je crois que... J'ai pas fait ces pas parce que je voulais faire du théâtre. J'ai fait ces pas parce que je voulais raconter ce que j'ai senti, l'émotion que j'ai prouvée quand j'ai lu les lettres, les mémoires. Mais je ne sais pas si je ferai encore du théâtre.
Alors cela étant, ce spectacle-là, bon, après Paris, il y aura New York, il y aura Los Angeles.
Oui, mais c'est sûr.
Vous pourrez le reprendre.
Non, mais encore, peut-être aussi qu'il y aura encore un truc qui arrive, et je ne sais pas, parce que du moment que c'est l'instant qui nous porte, je ne sais pas. Mais comme ça, c'est vrai que ça fait 3 ans... Une tournée qui a commencé, ça fait 3 ans, avec beaucoup de pays, des langues différentes. Et c'est beau, mais c'est aussi enrichissant, mais c'est aussi quelque chose, vous voyez, Anna Magnan, elle se permet de dire qu'elle avait les tracts, alors j'ai le courage de le dire moi aussi maintenant.
Ouais, ce qui est bien normal. Mais alors j'évoquais aussi, par rapport à ce que vous disiez d'Anna Magnan, et que la crise, il faut qu'elle soit toujours la même, j'évoquais votre souci au tout début de paraître belle, ça c'était juste après le mannequinat, mais pour interpréter Lisa dans Agent Secret de Frédéric Schoenderfer, là vous ne cherchiez pas du tout à séduire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, vous jouiez là. Sobriété, la retenue, la pudeur. Et en ce moment, on peut vous voir sur Amazon Prime Video, en Memory, de Martin Campbell. Là, vous êtes carrément en lady. C'est un plaisir. C'est vrai.
Parce qu'après, ce que c'est beau, c'est que plus on est libre, et moins on a peur. Après, le cinéma, j'ai pas peur comme au théâtre. Parce que le théâtre, c'est du spectacle vivant et ses relations avec le public est magnifique, mais en même temps, c'est cet échange qui est fort. Alors que le cinéma, t'es protégé. Le cinéma te protège en quelque sorte. Et pour Memory, voilà, je fais une femme qui est pas très, une femme qui a beaucoup de pouvoir et qui protège son fils qui est prêt à tout. Mais voilà, c'est vrai, j'ai pris du poids, avec les maquillages, on a travaillé un peu pour sortir du zone de confort, on dit. Et en effet, tout ça a aidé à donner vie à un rôle différent que d'habitude.
Mais ça vous amuse aussi?
Ah bah oui, bien sûr que ça m'amuse. Je pense que, à même l'âge qui passe, ça te permet de donner vie à d'autres rôles. Parce qu'on te regarde autrement. Et ça, ça t'amène une nouvelle liberté.
Vous imagineriez de ne plus tourner, ne plus jouer, arrêter?
Oui, je pourrais. Je pourrais m'arrêter. Et dire merci, ça a été merveilleux. Oui, je pourrais m'arrêter.
Mais tant qu'il y a la curiosité, tant qu'il y a le désir, tant qu'il y a un projet nouveau qui arrive...
J'ai la même la curiosité qu'avant, les mêmes désirs, la passion. Mais aujourd'hui, toujours mon amour est là, mais je pourrais aussi m'arrêter. Tout ce qu'il y a, je sais que c'est merveilleux. Quand j'avais 20 ans, jamais j'aurais imaginé que j'avais la possibilité encore de travailler à 40, à 50. Là, j'ai 58 ans. Et c'est...
Je ne vous crois pas, mais bon.
Mais voilà, c'est beau que je travaille, que j'ai toutes ces possibilités. Mais je pourrais aussi m'arrêter.
Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques artistiques de Monica Bellucci? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous écrivez?
Non. Mais j'adore tout ce que c'est artistique, mais c'est vrai. Si je pense à autre chose, de m'éloigner du cinéma ou du théâtre, je pourrais faire m'occuper d'enfants. j'adore les enfants.
Bon, ça c'est une belle perspective, en effet. En tout cas, je rappelle que vous serez cette fin de semaine au Festival Lumière à Lyon pour présenter le documentaire The Girl in the Fountain d'Anton Giulio Panizzi. Alors, deux rendez-vous, une masterclass au Pâté Bellecour, ce sera vendredi à 11h30, ce sera animé par Virginie Appiou, et puis la projection du film, ce sera également au Pâté Bellecour. Là, ce sera samedi à 17h, et puis très hâte de vous voir sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris les 14 et 15 novembre pour ce spectacle Maria Callas, Lettres et Mémoires, avant deux autres représentations qui seront à New York et à Los Angeles. Merci infiniment d'être venu nous voir, Monica Bellucci.
Merci à vous.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est à présent l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Cinéma, ce soir, avec un film sorti ce matin dans les salles françaises, EO de Jerzy Skolimowski.
Oui, c'est toujours tellement bien de voir un film qui ne ressemble qu'à lui-même. C'est le cas de I.O., dont le titre à double voyelle est la version polonaise du cri de l'âne, hein, I.O., on dirait en France. Un film qui avait déjà fait parler de lui à Cannes, où il a concouru en compétition officielle pour la Palme d'Or. C'est donc l'histoire d'un âne, qui est au début la propriété d'un cirque, où il participe à un numéro avec sa cavalière et protectrice, une belle jeune femme qui prend grand soin de lui. Un jour, le cirque est démantelé, et c'est le début d'une nouvelle vie pour I.O., qui traverse dès lors des expériences multiples, aide dans un élevage de moutons, mascotte éphémère pour un club de football, blessé dans une clinique vétérinaire, compagnon d'un riche décadent. Le film suit l'âne à la trace et adopte son point de vue, quand il se perd, quand il fugue, quand il s'attache, dans une forme qui a tout du picaresque, mais ce serait un picaresque sans cavalier et avec seulement la monture. Alors, le réalisateur Jerzy Skolimowski, à qui on doit notamment Deep End, a beaucoup cité le film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, à l'occasion de la sortie, comme un film qu'il a beaucoup ému et marqué. Alors certes, il y a un âne, mais cette référence fonctionne, je crois, plutôt comme un leurre, de la même manière que le film échappe à toutes les formes, tous les genres, tous les discours auxquels il fait mine parfois de s'assimiler. On peut craindre, surtout au début, que le récit se fige dans une forme fixe, le conte par exemple, mais à chaque fois, le film est plus malin et en une scène, change de style, renvoyant sans cesse dos à dos toutes les catégories. Par exemple, le film adopte parfois une forme onirique, un peu esthétisante, avec des effets lumineux, sonores, hyper sophistiqués. Quelques minutes après, on se retrouve dans une sorte de régime hyper réaliste quand l'âne se retrouve au champ dans un élevage. Puis, avec cette histoire de club de foot, on est dans une comédie sociale un peu burlesque. Avec ce personnage de riche italien, on flirte presque avec le film de mafia ou avec le drame familial.
Donc cet âne, il faut dire I.O. pas E.O.
Je ne sais plus exactement comment les personnages le prononcent, mais il est assez peu nommé, puisque c'est le personnage
principal. Ça s'écrit E.O., donc je disais, c'est âne. Il traverse des régimes d'images, de sons, de lumières extrêmement différents.
Oui, parfois des grands espaces parcourus par des chevaux sauvages, comme dans un western, parfois des exploitations agricoles filmées comme un documentaire, parfois un jardin hyper soigné comme un décor surréaliste. Je ne révèle pas tout, il y a vraiment des surprises dans le film, dont la forme erratique déjoue toutes les attentes. Tout ça crée un effet profondément ludique, comme un jeu de pistes, dont on serait bien en mal de résumer la finalité. Il y a certes quelque chose de la fable écologique et animaliste. Skolimowski filme l'âne comme un acteur humain, dont il adopte souvent le point de vue, en filmant tout près de son œil, on ne va pas dire à l'épaule, enfin je ne sais pas si on parle de l'épaule d'un âne, mais il le filme à l'épaule, c'est un peu ça, et montre au détour de chacune de ses aventures une issue tragique possible, qui est celle des bêtes aujourd'hui. Le cirque, qui est d'ailleurs arrêté sous la pression de militants animalistes, l'élevage et l'industrie alimentaire, double menace pour lui parce qu'il peut à la fois y être l'adjuvant de l'homme et manger. Et puis, la violence gratuite des hommes qui s'attaquent à plus fragiles qu'eux. La menace est permanente, qui fait qu'on éprouve très vite pour I.O. une tendresse que le film ancre profondément chez le spectateur, en filmant longuement ses yeux, en le montrant mutique et vulnérable. Pour autant, le film est bien plus que seulement cette fable engagée. D'ailleurs, on peut se demander si, comme le cirque, le film n'est pas aussi aussi un lieu de l'exploitation de I.O. Ce qui est remarquable dans le fond, ce n'est pas tant que son héros soit un animal, mais qu'il soit aussi poignant, un œil pur comme un biais pour traverser un monde divers et compliqué, tendre et cruel, réel et cauchemardesque. Un monde constitué de multiples images et formes de cinéma.
Vous allez adopter un âne ?
Non, mais vraiment, j'aimerais bien. Enfin, ça prend un peu de place, mais c'est extrêmement mignon.
I.O.
En tout cas, il l'est.
Il l'est. I.O. de Jerzy Skolimowski, qui est sorti aujourd'hui en salle. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
On change vraiment de sujet.
Oui, complètement.
Ces revendications sociales dans lesquelles nous baignons en ce moment, vous nous proposez, vous, de regarder vers le XVIIIe siècle pour tenter d'y voir plus clair.
Oui, Arnaud, les salariés du public et du privé ont été appelés à cesser le travail et à manifester pour réclamer une augmentation des salaires. L'occasion pour nous de nous interroger sur la question de la pauvreté. Pour mieux la comprendre aujourd'hui, nous allons faire un détour par le siècle des Lumières et notamment par la littérature. Que disent Marivaux ou Voltaire de la condition sociale des hommes et des femmes de leur temps ? Je suis allée retrouver Laurence Fontaine pour en savoir plus. Laurence Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS. En quoi la littérature peut-elle être une source pertinente pour les historiens pour étudier la pauvreté ?
Mais les historiens ont toujours été très mal à l'aise avec la littérature. C'est de la fiction, ils aiment les textes, les archives. Mais progressivement, ils se sont rendus compte que les archives, elles sont aussi produites par des êtres humains. Ce sont des batailles. Derrière elles, elles ne sont pas froides. Et finalement, la parenté entre l'archive et la littérature est beaucoup plus ténue que ce qu'on peut penser. D'abord parce que dans les archives, on ne sait rien des sentiments. Toutes les émotions des personnes ne sont pas traduites dans les archives, ou alors elles sont vraiment biaisées. Vous avez par exemple des gens qui vont écrire des lettres pour demander leur libération ou la libération de leur mari, et ils vont dire tout ce que l'autre a envie d'entendre. Et finalement, pour arriver à percevoir vraiment ce qu'il est, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis qu'un homme qui a une grosse sensibilité, qui est à l'écoute de son temps et qui peut arriver à nous faire partager sa manière de percevoir ses contemporains. Et puis surtout, prenons l'exemple de Marivaux, c'est un spectacle. Le spectacle, il faut que les gens y viennent. Les gens y viendront que s'ils s'y reconnaissent, si on parle un langage commun. Si ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qui préoccupe les gens, les salles seront vides. Et Marivaux, en ce sens-là, a été absolument exemplaire. Parce qu'il avait deux combats. Son premier combat, c'était faire en sorte que les hommes des classes populaires cessent d'être méprisés comme ils l'étaient. Et le deuxième combat, ce sont les femmes. Faire en sorte que les femmes cessent d'être dépendantes de leur mari, acquièrent de la liberté et soient aussi respectées. Et donc, toute sa vie, il a fondé des journaux, écrit ses pièces, il a travaillé pour la Comédie italienne, il a travaillé pour la Comédie française, il a essayé d'avoir tous les publics. Et effectivement, il a réussi, il a écrit pour la ville, pour la cour, enfin, de tous les côtés.
Et justement, est-ce que cette position d'écrivain observateur, vous citez Marivaux, vous le citez abondamment dans votre essai, justement sur ces deux positions que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la situation injuste des hommes dans leur classe et la situation injuste des femmes par rapport aux hommes, est-ce que ça a été efficace, selon vous, le travail de Marivaux, pour une prise de conscience publique plus large ?
Je pense que oui, parce que j'arrive pas à retrouver le document, mais j'ai lu les mémoires d'un homme qui, après la Révolution, se dit... Mais Marivaux, on n'a pas fait attention et il a donné une envie de liberté au peuple. Il a été un acteur de cette révolution. On aurait dû y faire attention plus tôt. C'est un réactionnaire qui parle.
C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, quand on monte Marivaux ou quand on va voir Marivaux au théâtre, on oublie un peu cette dimension-là de l'homme et de l'écrivain.
Oui, absolument. Je trouve ça très étonnant. Relisez tous Marivaux et vous verrez que sans cesse, il essaye de combattre ses préjugés, que ce soit dans ses romans Le Paysan de Paris, avec Jacob qui monte, la manière dont le maître le traite, veut lui faire épouser sa maîtresse une fois qu'il l'a mise enceinte, et comment précisément Jacob dit « Mais j'ai été émerveillé, tout cet argent qu'on m'offre, cette installation qu'on me promet, mais quelque part ma conscience me disait « Mais non, tu ne peux pas accepter ça, ton honneur ne te le permet pas, tu te sentiras malheureux toute ta vie ». Et comme ça, progressivement, il fait prendre conscience que bien sûr l'argent c'est important, mais que l'honneur ça l'est tout autant. Or, à cette époque-là, l'honneur des pauvres, ça n'existe pas. c'est quelque chose qui appartient aux privilégiés, aux classes nobles, aux riches, mais pas aux pauvres.
Voltaire écrit « La misère attachée à notre espèce subordonne un homme à un autre homme. Ce n'est pas l'inégalité qui est un malheur réel, c'est la dépendance. » Vous citez cette citation dans votre avant-propos. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des revendications, par exemple salariales, cette phrase ?
Là, c'est un discours autour de l'inégalité. Mais la dépendance dans l'Ancien Régime, elle était vraiment réelle parce que les gens ne pouvaient pas vivre avec les salaires qu'ils avaient, et c'était fait pour d'ailleurs, en sorte qu'ils aient besoin de demander l'aide des classes aisées qui gagnaient le paradis en leur faisant la charité. Et donc, il y avait ce lien absolument intrinsèque entre les pauvres et les riches à travers la charité. De même, il n'y avait pas vraiment de police à cette époque. Et donc, quand on arrête un vagabond sur les routes, on lui demande d'être avoué par quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir un lien avec des personnes de considération qui pourront dire « je le connais, je l'avoue ». Et à ce moment-là, vous pouvez être relâché. Donc, sans arrêt, vous êtes obligatoirement lié aux plus riches. Ça a été extrêmement difficile, d'ailleurs, de desserrer cette dépendance du XVIIIe siècle parce que les gens se rendaient bien compte, avec l'idée de nature, que les hommes étaient égaux. Mais ils se disaient « mais les classes populaires, elles sont incultes. Ce sont des ivrognes. On ne peut pas leur donner ces droits-là. » Ils ne veulent pas bouleverser la société. Donc, ils sont en tension sans cesse entre le mot de liberté dont on se gargarise et le fait qu'ils ne veulent pas la donner, la liberté, vraiment, aux classes populaires avec lesquelles ils parlent. Et maintenant, aujourd'hui, je dirais qu'il faut lier les classes populaires avec les riches, en quelque sorte, parce qu'on le sait très bien, il y a un privilège des riches. Et il y a quelque part quelque chose de pervers là-dedans qui dit, individuellement, tel enfant n'a pas réussi, alors que tel autre a réussi. Et du coup, on donne une culpabilité à l'enfant qui n'a pas réussi. Or, elle est un petit peu malhonnête. Il vaudrait mieux reconnaître le privilège de ceux qui ont de bonnes conditions pour déculpabiliser ceux qui n'en ont pas de bonnes. Et bien sûr, faire tout ce qu'on peut pour améliorer les conditions de santé scolaire, etc., des enfants des classes populaires.
Ce qui est très étonnant quand on vous lit, et je renvoie nos auditrices et auditeurs à votre essai « Vivre pauvre, quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières », c'est que cet essai, il résonne très fort avec notre actualité. Il vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Laurence Fontaine.
Eh bien, merci à vous Marie Sorbier. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la funambule Tatiana Mosio Bongonga. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présenterez Traversée le 23 octobre et Soka Tira Ozoa les 27 et 28 octobre. C'est dans le cadre du festival Circa à Auch. Alors procédons par ordre. Traversée, je vous expliquais que c'est l'aboutissement d'une longue aventure d'action culturelle en compagnonnage avec Circa. Votre compagnie, Bazinga, a démarré une résidence de quartier au Garros depuis octobre 2021, à la rencontre des habitants, familles, écoles, pompiers, associations. Il y a plus de 350 personnes qui ont, avec vous, marché sur un fil, joué de la musique, cousu un costume, grimpé dans un arbre ou descendu en rappel d'une façade. Alors, qu'est-ce que vous allez montrer de cette aventure très longue dans cette représentation du 23 octobre ?
Dans cette représentation, on va montrer un peu tout ça. On va se retrouver tous ensemble dans le quartier, dans un parc, où il y aura des enfants qui montreront jusqu'où ils ont pu aller. Du coup, ils seront mis en scène. Il y aura aussi une petite qui nous fera une espèce de surprise dans les arbres. Ensuite, on ira, on se baladera dans le quartier où on va voir plein de personnages avec les costumes qui ont été élaborés dans l'atelier costumes. C'est des pièces qui évoluent dans chaque lieu où on va. Du coup, on commence à voir des costumes qui sont juste magnifiques et qui sont dignement revêtis. Donc sur le chemin, on va croiser tout un tas de personnages et on va arriver dans un lieu où il n'y a rien d'installé, mais où un fil va apparaître et va se dresser. C'est comme une espèce de grande cérémonie, en fait. Et à un moment donné, il y a une messagère qui va passer pour amener la corde. Cette corde va être installée, ça va monter à plus de 15 mètres de haut. Dans cette installation, on a décidé de faire un virage qui redescend au sol. Du coup, je vais finir par traverser ce fil à 15 mètres de haut. Et pour terminer ce chemin en bas, pour qu'on soit tous ensemble pour pouvoir faire la fête.
Voilà, un sacré programme qui donne très envie d'y être le 23 octobre. Mais on va le voir aussi avec l'autre proposition, Socatira Ozoa. Vous travaillez beaucoup, justement, au cœur des territoires, avec les habitants. En quoi ça nourrit et ça influe sur votre propre création artistique?
Ah bah, pour moi, c'est impossible d'aller dans un endroit, de faire un spectacle et partir. En fait, j'ai besoin d'être dans la rencontre. Et je me nourris de toutes ces rencontres. Pour moi, en tant que funambule, c'est une manière de rester au sol et dans la réalité. Et le fait de monter sur un fil, ou peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on partage dans la compagnie, parce que tout le monde est passionné, tout le monde a cette envie de partage. Et le fait de faire notre métier et de rencontrer du monde, bah, ça nous porte. Ça nous porte et ça nous met dans un autre endroit parce qu'il y a ce lien qui est là, qui est très fort. On joue plus pour un public, on joue pour des personnes qu'on connaît. Et on est tous ensemble en train de vivre cette aventure. Donc pour moi, tout ce qui est projet d'action culturelle, tout ce qui peut me permettre de rencontrer un peu plus un public, bah, ça m'intéresse, ça me nourrit, ça me fait vivre en fait. C'est l'échange qui me fait vivre.
Échange aussi avec Socatira Ozoa, parce que c'est une expérience, on va dire, une proposition participative, puisque vous allez proposer, notamment au public, de voir comment ça se passe de l'autre côté, si je puis dire, l'envers du décor. Vous allez, semble-t-il, demander de l'aide aux spectateurs quand vous en aurez besoin. Là, c'est quoi? C'est une forme de sensibilisation à votre forme d'art?
Voilà, c'était un peu parler de cet état de dépendance, en fait, les uns envers les autres. Et clairement, cette structure, on est capable de la monter. Enfin, on sait comment la monter. Mais si on le fait tout seul, on n'y arrive pas. Et c'était pour mettre ça un petit peu en avant. Des liens, il y en a dans tous les sens. Et c'est vraiment le fait de réussir à être ensemble qui fait qu'on est porté, qu'on va beaucoup plus loin, qu'on va plus vite aussi, qu'on est ensemble, qu'on vit quelque chose ensemble et qu'on le partage. Donc dans ce spectacle-là, le fait de faire intervenir le public, ça le met à un autre endroit. Et il ne regarde plus le spectacle de la même manière, parce qu'il a été dans une action.
Oui, mais tout de même, Tatiana Mozio-Bonganga, quand vous êtes, vous, toute seule, en haut, parfois des hauteurs absolument vertigineuses, enfin déjà 15 mètres, c'est déjà très très haut, vous êtes seule. Quelle sensation vous avez, vous?
Eh bien, moi, je ne me sens pas seule, justement, parce que je vois tous les visages des personnes que j'ai rencontrées. Et souvent, ce que je dis, c'est que par rapport au vide, c'est que ce vide, je ne le ressens pas parce que je l'ai rempli. Je l'ai rempli de tous les liens qu'on a tissés tous ensemble. Donc, j'ai beau être toute seule sur ce film, à aucun moment, je me sens seule. Aucun moment.
Une belle réponse, mais alors vu d'en bas, nous on a toujours très très peur quand même, pour vous qui êtes en haut.
Ah bah, le funambulisme, c'est la symbolique de la représentation du risque, donc oui, effectivement c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut déranger aussi. Parce qu'il y a quand même cette peur grandissante de la mort, et d'un coup quand on voit un funambule, on se dit qu'elle peut mourir, enfin qu'il ou qu'elle peuvent mourir à chaque pas, et ça nous ramène à notre propre mortalité. Ah mais en fait moi aussi. Et ça peut paraître un peu désagréable, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Et ça, je m'en rends compte quand je descends du fil et que parfois je me fais un peu agresser d'eux, mais j'ai pas le droit de faire ça. C'est inadmissible aujourd'hui de traverser sans longe de sécurité. Et là, ça devient presque un acte politique de si, en fait. Et on le fait tous et c'est important de le savoir, c'est important d'être responsable de ce qu'on fait. C'est important de s'engager.
Merci pour ces mots forts, Tatiana Mozio-Bonganga. La 35e édition du Festival du Cirque Actuel se tient jusqu'au 29 octobre à Auch, dans le Gers. On pourra donc vous retrouver le 23 octobre pour Traverser et les 27 et 28 pour Socatira Ozoa. Vous partirez ensuite au Chili pour présenter votre travail avec l'Institut français. Puis il y a une exposition photo de Valérie Frossard, portrait de traversée réalisé avec les habitants dans ce quartier d'Orgeval sur les grilles du Manège. À voir, donc, le Manège, c'est national de Reims, à voir jusqu'au 31 octobre. Cette émission, comme toute celle de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.